criminelle organisée, selon Interpol.
Simon Rosé du service environnement de Radio France Internationale. Il est 5h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.
À suivre, la suite de notre série de reportages à Bossongo, à une cinquantaine de kilomètres de Bangui, la capitale centrafricaine. Rolf-Steph Domialeux part ce samedi à la rencontre de ceux qui vivent du manioc, aliment de base de la nourriture locale. Témoignage ensuite, celui de la journaliste camerounaise Lynn Renée Batongué. En novembre 2020, elle subissait des menaces et même une arrestation alors qu'elle était en mission officielle. Elle raconte. Et puis notre invité, le critique cinéma Aboubacar Demba Sissoko, à l'occasion du 80e anniversaire de la naissance de Djibril Diop Mambéty, réalisateur sénégalais de renom. Mais tout de suite, place au sport. Bonjour Christophe Diarrenzo, du basket pour commencer et la NBA qui refait le show ce soir à Paris-Bercy avec la revanche du match de jeudi entre les San Antonio Spurs et les Pacers d'Indiana.
Second acte de cette semaine de gala avec forte concentration de vedettes sur le parquet et de VIP dans les tribunes au mètre carré. La franchise texane de Victor Wembanyama a remporté le premier duel 140-110, réponse attendue donc des Pacers. Équipe depuis un an de Pascal Siakam, le Camerounais, trentenaire, longtemps pensionnaire des Raptors de Toronto, figure très respectée de la grande ligue nord-américaine, en attendant de l'être, qui sait, un jour avec les Lions indomptables. Victor Misistrano.
Il a le potentiel pour faire grandir le basket africain en général, c'est Victor Wembanyama qui le dit.
Il joue en équipe nationale, Siakam ? Non. Comme j'ai toujours dit, si je vais jouer pour une nation, ce sera le Cameroun. Jusqu'ici, ça n'a pas pu être possible. Mais bon, ouais, je suis Camerounais.
Pascal Siakam ne choisira pas un autre pays comme Joel Embiid, champion olympique avec les États-Unis l'an dernier. Georges Eddy, voix de la NBA pour la chaîne Canal Plus Afrique, s'étonne du manque de reconnaissance accordée à Siakam par rapport à son compatriote.
On devrait parler autant de Pascal. C'est un des joueurs sous-estimés actuellement dans la NBA. Au début de sa carrière, il était quasi inconnu. C'est le génie du club de Toronto d'avoir trouvé cet oiseau rare.
L'oiseau a pris son envol pour devenir champion NBA avec Toronto en 2019 et disputer deux fois le match des étoiles, le All-Star Game. Désormais, le Camerounais fait le bonheur des fans d'Indiana. Maillot sur le dos et gigantesque casquette des Pacers sur la tête. Jimmy est venu du Wisconsin pour assister aux deux matchs à Paris.
Pascal est génial. Il n'est arrivé que l'an dernier, mais il a tout de suite été très constant. Il travaille dur et fait de bons matchs. C'est aussi un leader du vestiaire, donc nous sommes ravis de l'avoir.
En bon leader, Pascal Siakam a prévu de remobiliser son équipe, pas assez combative selon lui, lors de la défaite de jeudi.
Pascal Siakam et ses coéquipiers d'Indiana face aux Spurs. Le retour, coup d'envoi à Bercy, 17h temps universel.
Et puis du handball avec le mondial qui se poursuit. Les Égyptiens sont aux portes des quarts de finale.
C'est presque comme si c'était fait pour les champions d'Afrique, vainqueurs hier à Zagreb de la Slovénie d'un cheveu, 26-25 pour leur deuxième match du tour principal. Ce succès les maintient à la deuxième place qualificative de leur groupe, derrière la Croatie et devant l'Islande. Ces trois sélections étant à égalité de points. A priori, le Cap-Vert, dernier adversaire demain des Pharaons pour cette phase, est d'ores et déjà éliminé, ne contrariera pas le destin des Égyptiens et l'optimisme de leur ailier Mohamed Sanad, ravi d'avoir fait le plus dur en dominant les Slovènes.
Ça nous donne beaucoup de motivation, de soulagement, et maintenant on peut dire on est qualifié. On attend pour savoir dans quelle position on finit, première ou deuxième, et voilà.
Il y a quand même ce dernier match face au Cap-Vert, ce duel 100% africain.
Bien sûr, il y a tout le respect pour le Cap-Vert et on va jouer ce match pour gagner aussi. Hein.
Il y a une préférence dans la position de terminer premier ou deuxième.
De toute façon, un quart de finale, c'est un quart de finale. Donc, dans tous les cas, contre qui tu joues, ça sera une grosse équipe. Bien sûr, tout le monde préfère finir première, mais un quart de finale, c'est un quart de finale. Tout peut se passer.
Mohamed Sanad avec Marco Martins à Zagreb. Aujourd'hui, la Tunisie en finit avec son tour principal en affrontant l'Allemagne, mais sans autre but que de finir la tête haute, les Aigles étant déjà hors course.
Le journal des sports de Christophe Diarrenzo, on vous retrouve tout au long de la matinée sur RFI.
RFI, toute l'actualité, Nemo en piste.
5h46 à Paris, les principaux titres de l'actualité de ce samedi 25 janvier 2025. Au Proche-Orient, le Hamas doit libérer aujourd'hui 4 soldates israéliennes, otages à Gaza depuis le 7 octobre 2023. En échange, Israël rendra leur liberté à plusieurs dizaines de Palestiniens détenus. C'est le deuxième échange de ce type prévu par l'accord de trêve dans la bande de Gaza, qui est entré dimanche dernier en vigueur. Dans le même temps, les autorités israéliennes somment l'UNRWA, l'agence de l'ONU, pour les réfugiés palestiniens de quitter Jérusalem d'ici le 30 janvier, c'est-à-dire jeudi de la semaine prochaine. Israël qui accuse l'agence d'être infiltrée par le Hamas et affirme que certains de ses employés ont participé aux attaques du 7 octobre 2023. Aux États-Unis, l'administration Trump continue de se mettre en place. Hier, le président américain en déplacement en Caroline du Nord et en Californie a posé des conditions à l'aide pour les catastrophes naturelles. Il n'aidera Los Angeles à se reconstruire que si la Californie coopère un minimum avec son administration. Et puis, le nouveau chef de la diplomatie Marco Rubio annonce le gel de l'aide étrangère des États-Unis à l'exception de celle fournie à l'Égypte et à Israël, le temps d'un réexamen complet. Tout de suite sur RFI, le reportage Afrique. En Centrafrique, pour la suite de notre série à Bossongo, village situé à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Bangui. On s'intéresse ce matin à l'aliment de base de la population, le manioc. 9 habitants sur 10 en mangent quotidiennement selon l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques et Sociales. Il occupe une place majeure de l'alimentation donc, mais aussi de l'économie locale, comme l'a constaté Rolf-Steph Domialeux.
Comme tous les matins, Joseph Kamila vient d'arriver dans son champ de manioc d'environ 10 hectares à proximité de Bossongo. Sous un hangar en bâche, des tubercules de manioc sont entassés à même le sol. Assis sur des tabourets ou par terre, les ouvriers les épluchent. Joseph est un homme d'église. Il cultive le manioc depuis une vingtaine d'années. Ce métier n'a plus aucun secret pour lui.
Je suis pasteur, mais je gagne ma vie à la sueur de mon front. C'est la période de récolte. Après avoir épluché les tubercules, les ouvriers les plongent dans l'eau pendant 2 jours avant de les étaler au soleil. Et après séchage, le manioc est broyé au moulin afin d'obtenir la farine destinée à la consommation.
Grâce à cette technique de transformation, la clientèle n'est pas seulement locale. Elle provient également de la capitale et des localités environnantes. Debout à côté du dépôt, avec une vingtaine de sacs en plastique, Hortense, une consommatrice, a parcouru des kilomètres pour s'approvisionner à la source.
Le manioc d'ici est bien blanc avec un goût unique. Je viens de la capitale et c'est ici que je me ravitaille chaque mois. Mes enfants n'aiment pas le riz. S'ils ne mangent pas le manioc, ils ne sont pas rassasiés.
À Bossongo, presque tous les habitants sont à la fois producteurs, consommateurs ou commerçants de manioc. Assise sur un tabouret, non loin des sacs remplis, Fernande, 38 ans, fait partie de ceux qui tirent profit de cette activité.
Je pratique cette activité depuis une vingtaine d'années. Je suis veuve et c'est grâce à ce travail que j'ai construit ma maison, payé la scolarité de mes enfants. Le manioc me permet de m'occuper dignement de ma petite famille.
Dans sa plantation, Joseph Kamila emploie également une dizaine d'ouvriers et de démarcheurs qui gagnent leur pain grâce au manioc. Mais dans ce travail, les difficultés ne manquent pas.
Nos difficultés se résument au manque de matériel et surtout au tarissement des cours d'eau pendant la saison sèche. Nous n'avons pas de véhicule pour distribuer nos produits partout en Centrafrique, mais c'est un projet.
À Bossongo, le prix de la cuvette du manioc varie entre 2000 et 2500 francs CFA. Une fois acheminé à Bangui ou dans les périphéries, les prix sont ajustés à 3500 ou 4000 francs CFA pour permettre aux revendeurs d'en tirer profit. Rolf-Steph Domialeux, Bangui, RFI.
Et demain, vous retrouvez le troisième et dernier épisode de cette série de reportages tournés à Bossongo. Menace sur l'information avec l'histoire ce samedi de Lynn Renée Batongué qui travaille à la Cameroun, radio-télévision, organisme public et médias d'État qui suit la ligne éditoriale du pouvoir et qui n'est donc pas connue pour des positions qui pourraient être jugées subversives. Pourtant, cette journaliste a bel et bien subi une arrestation arbitraire. C'était en novembre 2020. Elle a reçu des menaces alors qu'elle était en mission officielle près de la ville de Bertois, dans l'est du pays. Lynn Renée Batongué revient sur cette histoire avec Igor Strauss.
8 novembre 2020, Lynn Renée Batongué est en reportage dans la localité de Tête d'Éléphant, en pleine zone forestière, à l'est du Cameroun. Lettre de mission en poche, elle réalise un reportage sur les bienfaits de la forêt pour les populations locales, quand tout à coup...
Le commandant de la brigade est venu vers nous et il nous a dit, écoute, le préfet a demandé que je vienne vous arrêter. Je lui ai demandé quels étaient les faits qu'on me reprochait. Il a dit qu'il n'en savait pas grand-chose lui-même et il fallait donc que j'aille me présenter au bureau du commandant de compagnie.
Mais au bureau du commandant, toujours pas de motif. Alerté, des collègues journalistes et des défenseurs des droits s'indignent sur les réseaux sociaux de cette arrestation arbitraire. Mise sous pression, les autorités finissent par lui signifier le motif de son arrestation.
Le préfet, en fait, il pensait que moi, je partais pour autre chose parce qu'il était assez impliqué quand même dans l'exploitation illégale des forêts camerounaises.
Lynn-Renée Batongué comprend vite qu'elle n'est pas en sécurité.
C'est clair que quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on a peur. Et puis, vous savez, quand de gros intérêts sont mis en jeu, ils sont prêts à tout. Parce que les recettes issues de l'exploitation forestière sont énormes. C'est à coût de milliards d'euros.
Libérée après deux jours, Lynn-Renée continue d'être victime d'actes malveillants.
J'étais constamment menacée, constamment visitée par des bandits chez moi. Je ne comprenais pas quoi. À un moment, je me suis demandé, est-ce que tout ça n'est pas lié ?
Des menaces exacerbées, selon elle, par le fait d'être une femme.
Quand c'est des confrères hommes, on se dit non, ils ont un peu plus de couilles, ils ont un peu plus de courage, donc ils ne peuvent pas. Par contre, quand on voit une femme, on la menace beaucoup plus. Et c'est ça souvent la difficulté avec les femmes journalistes qui se trouvent dans des secteurs à risque. Parce que le secteur environnement est un secteur à risque dans nos pays et donc on reçoit beaucoup de menaces.
Après un autre reportage sur l'exploitation d'une carrière près de Yaoundé, Lynn-Renée Batongué est convoquée par sa direction.
Mon rédacteur en chef de l'époque m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, Lynn, je viens de recevoir plein de coups de fil menaçant à propos. Laisse tomber cette enquête. Tu as des enfants, tu ne vas pas mettre et ta vie et la vie de tes enfants en danger, laisse tomber, je t'ai dit. J'ai dit, ok, j'ai entendu, et j'ai laissé tomber la série.
Les menaces et les pressions, une façon efficace de faire taire les journalistes jusqu'au jour où ils osent témoigner.
Igor Strauss pour la chronique Menace sur l'information. Cette semaine au Sénégal, on a commémoré les 80 ans de la naissance du réalisateur Djibril Diop Mambéty, décédé à Paris en 1998 à l'âge de 53 ans. C'est à cette occasion que nous recevons Aboubacar Demba Sissoko, journaliste et critique cinéma sénégalais. Plus d'un quart de siècle après sa mort, l'œuvre de Djibril Diop Mambéty continue de tourner dans les festivals, offrant aux spectateurs un mélange de sarcasme, de drôlerie, mais aussi de réalité teintée de poésie et de compte. Aboubacar Demba Sissoko est l'invité d'Ouda Ibrahim.
Aboubacar Demba Sissoko, bonjour.
Bonjour.
En quoi Djibril Diop Mambéty, celui que l'on surnommait l'enfant terrible du cinéma au Sénégal, a marqué le cinéma de son temps?
Djibril Diop Mambéty est arrivé après qu'une première génération de cinéastes poser les jalons de ce qu'on a appelé cinéma africain, cinéma des Afriques. Il est arrivé à la fin des années 60 avec une écriture singulière, une esthétique qui s'écartait un peu, qui se démarquait de l'esthétique posée par les pères fondateurs. C'était dans les thématiques déjà, des thèmes qui abordaient la question coloniale, la question du rapport à l'Occident, les questions politiques, les questions sociales d'une certaine façon, mais sous le rapport des interactions entre l'Afrique et l'Occident.
Comme vous dites, il portait en lui, selon le critique, son Afrique. En plus de son style poétique, il refusait de faire un cinéma conventionnel. Peut-on dire qu'il est le cinéaste le plus marquant de sa génération?
D'une certaine façon, oui, il est le cinéaste le plus marquant parce qu'il a apporté une rupture dans la façon de faire les films. Parce que il n'a pas été à une école classique de cinéma comme Sembène, Paulin Soumalo Vieira, Aboubacar Sambe et autres qui ont été à des écoles. Lui, il est venu avec son regard d'artiste. Il est le plus marquant dans cette génération-là, au point qu'à lui tout seul, il constitue une école qui a influencé les générations qui ont suivi et qui continuent d'inspirer les jeunes générations qui font du cinéma aujourd'hui au Sénégal, ailleurs en Afrique.
Djibril Diop Mombetti était un diseur d'histoire. Et il avait une qualité narrative extraordinaire, une proposition majeure de la vie collective. Et surtout, à Dakar, il a beaucoup filmé cette ville.
Pourriez-vous nous dire comment il l'a abordé ?
Il l'a abordé du point de vue du bas, c'est-à-dire que Djibril Diop s'est intéressé à ce que lui-même a appelé les petites gens. C'est les gens dont on n'entendait pas les histoires, dont on n'entendait pas les aspirations, dont on ne voyait pas les récits dans le cinéma ou dans les arts en général. Et donc, Djibril Diop s'est donné comme mission de porter à l'écran ces histoires-là, des gens de la marge dans Dakar. Il a essayé de coller à la façon dont ces gens-là entendaient leur histoire, c'est-à-dire que c'est des contes, c'est des récits à partir de l'oralité qui prenaient en compte une façon de vivre ou de se mouvoir dans la société en dehors de certaines conventions établies.
C'est une ville de Dakar mi-fantasmée, mi-réaliste qu'il a filmée également.
Oui, c'est la ville dont il rêvait, mais la ville réelle telle qu'elle se donnait à voir. Par exemple, pour son premier film Contra City qu'il réalise en 1968, il fantasme la ville, mais il transforme les choses pour se donner à une critique à la fois sociale et politique. Et c'est à partir de cette première œuvre-là qu'on perçoit un cinéaste décidé à filmer à contre-courant, alliant comédie et drame, et puis les méthodes de la tradition orale à l'africaine.
Touki Bouki, son premier long métrage, a été reconnu dès sa sortie comme un chef-d'œuvre. Ce film constitue-t-il un document, une sorte de marque dans l'histoire du cinéma sénégalais ?
Au début, Touki Bouki a subi de violentes critiques, n'a pas été compris parce que c'était déroutant. C'est au fil du temps que Touki Bouki s'est imposé par son écriture, par l'esthétique qu'il a montré, que Touki Bouki est devenu un chef-d'œuvre.
Aujourd'hui, alors que l'on commémore à Dakar le 80e anniversaire de sa naissance, que représente-t-il pour la jeune génération de cinéastes ?
Il représente un repère. Quand vous interrogez aujourd'hui les jeunes qui font du cinéma ou peut-être même moins jeunes, ils vous citent Djibril Diop Mambetti comme quelqu'un qui les inspire. Oui, il représente un repère et son héritage est souvent questionné.
Aboubakar Domba Sissoko, merci.
Aboubakar Demba Sissoko, journaliste et critique cinéma sénégalais avec Oudra Ibrahim, entretien à retrouver en intégralité sur l'application RFI Pure Radio et tout au long de la matinée sur nos antennes dans deux heures, notamment avec Julien Coquel-Rohem que l'on retrouve dans un peu plus de 30 secondes pour le début d'RFI Matin, 6h, 9h, heure de Paris. Merci d'écouter RFI.
Écoutez RFI en direct et en podcast sur l'application RFI Pure Radio.
Conçue comme une plateforme d'écoute, Pure Radio offre un accès à tous les contenus de RFI en français et dans 16 autres langues. Elle vous permet de rester au plus proche de l'actualité et de retrouver facilement les podcasts de vos émissions préférées. Vous pouvez aussi télécharger un podcast pour le réécouter, même hors connexion.
Avec son appli Pure Radio,
RFI est toujours avec vous.
Toujours avec vous.